Vous écoutez
RMC.
Jeudi 9 juillet,
l'info sur RMC.
Merci d'être là, c'est heure une, Céline Kallmann. Les informations, Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Le tabac n'est plus tabou aux frontières. Une cartouche de cigarette, pas plus. L'Assemblée a décidé de limiter les achats. Explication de Quentin Vinet dès le début de ce journal. Le projet devait coûter 390 millions d'euros, déboiser 200 hectares de forêt. Le domaine Center Park à Roibon en Isère n'existera jamais. Pierre et Vacances abandonnent. Et puis on l'apprend à l'instant, projet d'accord sur au moins donc 180 euros net de salaire en plus pour les soignants. On y revient évidemment dans ce journal. Bienvenue à tous. Si vous fumez et que vous achetez votre tabac dans un pays frontalier pour payer moins cher, eh bien sachez que vous ne pourrez bientôt plus vous fournir autant qu'avant. Quentin Vinet, 4 cartouches jusqu'ici et demain, eh bien ce sera beaucoup moins.
Ce sera une seule cartouche de cigarette par personne si vous revenez d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, de Belgique ou du Luxembourg où les paquets coûtent parfois deux fois moins cher, 10 euros en France, autour de 5 euros au Luxembourg. C'est un amendement du gouvernement qui a été voté hier à l'Assemblée dans le cadre du troisième budget de crise. Ce n'est pas encore définitif, mais plusieurs députés se félicitent déjà. Ils disent que ça fera bientôt rentrer plus de taxes dans les caisses de l'État. Alors pourquoi réduire le nombre de cartouches? Eh bien, trois raisons sont avancées. La santé d'abord, la lutte contre la contrebande ensuite, et puis le soutien aux buralistes. Des buralistes qui ont vu énormément de monde pendant le confinement, quand les frontières étaient fermées. On n'avait pas le choix, il fallait acheter les cigarettes en France, plus 90% dans le Grand Est entre mars et avril. Mais ça, c'est fini. Il y a nettement moins de clients maintenant qu'on peut retourner à l'étranger.
Merci Quentin. Une bulle aquatique transparente en plein milieu de la forêt iséroise à Roibon, près de Grenoble. Un millier de logements, des commerces, des restaurants. Un projet de 390 millions d'euros qui finalement ne verra jamais le jour. Pierre et Vacances jette l'éponge. Anne-Sophie Balbir, il n'y aura pas de Center Park à cet endroit.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que le groupe abandonne, a réagi le président de Pierre et Vacances hier soir. Mais c'était devenu une impasse entre les problèmes d'autorisation pour les permis de construire, pour le défrichement et l'occupation du site par des zadistes depuis 2014. Une première victoire donc pour les opposants au Center Park, comme Éric Dailly, président de l'association Écologique Action.
C'est une excellente nouvelle pour le climat et une bonne nouvelle pour la forêt. C'est un développement intéressant, c'est une grande victoire, mais il y en a d'autres à gagner. La vraie victoire, ce sera quand Pierre et Vacances finalement admettra que ces projets, on peut plus faire ça.
Le projet d'un montant de 390 millions d'euros prévoyait la construction de 1000 cottages dans la forêt de Chambaran, des commerces, des restaurants, tout ça autour d'un espace aquatique sous forme de bulles transparentes maintenues à 29 degrés avec piscine, toboggan, jacuzzi. Pierre et Vacances ne chiffre pas le manque à gagner mais insiste, il n'y aura pas de conséquences sur la trésorerie du groupe.
Anne-Sophie Balbir, les discussions concernant la revalorisation des salaires pour les soignants se sont achevées à 1h du matin et je vous le disais en titre, un projet d'accord sur au moins 180 euros de net de hausse mensuelle a donc été trouvé. Les syndicats réclamaient 300 euros de plus par mois. Certains voient donc le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. C'est le cas d'Evelyne Rescanière, elle est secrétaire générale de la CFDT Santé. Pour elle, ce projet d'accord va dans le bon sens.
Des avancées très positives, on se rapproche, on est sur un socle commun de 180 euros pour tous les personnels. C'est pas suffisant pour rattraper les 20 ans de disette que l'on vient de subir au niveau salarial. Pour autant, c'est une somme considérable, 7,5 milliards d'euros, ça s'était jamais vu dans la fonction publique hospitalière et à ce titre, c'est quand même sans précédent et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qu'il ne faut pas négliger.
Et les organisations syndicales ont maintenant jusqu'à lundi pour signer ce texte, permettre notamment l'application des hausses de salaire dès le mois de septembre. Ce sera 90 euros pour commencer. Le chantier de la santé, voici maintenant celui des retraites. Jean Castex veut aller vite. Les partenaires sociaux sont reçus séparément dès ce matin à Matignon à partir de 8h30 et jusqu'à demain soir en présence de la nouvelle ministre du Travail, Elisabeth Borne, Paul Barcelone.
C'est un dossier hautement inflammable, mais au Sénat, Jean Castex assume.
Refuser de parler des retraites serait irresponsable.
Alors pour déminer le terrain, le Premier ministre va lancer deux chantiers différents. Une priorité, rééquilibrer le système de retraite actuel qui accuse près de 30 milliards d'euros de déficit, en partie à cause de la crise. Le passage à un système universel par points n'est pas abandonné, mais remis à plus tard.
Nous n'avons pas d'autre choix que de sauvegarder notre système de protection sociale.
Mais dans ces conditions, pas question de reprendre les négociations pour les syndicats.
Ça ne semble pas être un timing pertinent.
À l'image de Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT.
Le sujet retraite est toujours un sujet conflictuel, compliqué. On a autre chose à faire que de se mettre sur la figure dans l'automne qui vient. Le sujet numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est l'emploi.
L'opposition promet une guerre sociale au gouvernement de Jean Castex. Le Premier ministre recevra syndicats et patronat tous ensemble à Matignon avant le 20 juillet.
Le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend à Mérignac, en Gironde, pour assister à la cérémonie d'hommage militaire en hommage à Mélanie Lemay, cette gendarme tuée par un chauffard samedi soir près d'Agen. Gérald Darmanin qui a démissionné du Conseil régional des Hauts-de-France hier soir. RMC 7h06, l'alerte ce matin du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Il ne faut pas s'endormir, dit-il. Le virus est toujours là. Attention à ne pas abandonner les gestes barrières. Le professeur Franck Chauvin, membre lui aussi du Conseil scientifique, en appelle à la responsabilité de chacun pour éviter que l'épidémie ne reparte.
On voit bien que les pratiques changent, que bien sûr tout le monde veut vivre et c'est tout à fait normal, mais qu'il faut avoir quand même à l'esprit que le virus circule encore. Ce qui va se passer maintenant, là, à partir d'aujourd'hui, des jours qui viennent, ça dépend essentiellement de nous. Ça dépend pas de l'État, ça dépend pas de je sais pas qui, ça dépend de nous. Donc soit on joue le jeu et on arrivera à contenir cette épidémie, soit on relâche trop et à ce moment-là, on verra l'épidémie réapparaître. C'est une certitude maintenant.
En Mayenne, le nombre de cas a quadruplé en l'espace de 15 jours dans le département. Un dépistage massif va être organisé à partir de la semaine prochaine, à commencer par Laval. On y reviendra dans le journal de 8h sur RMC. 100 000 entreprises sont aujourd'hui en tension avec moins de 30 jours de trésorerie. C'est le cas des commerces, des services à la personne, mais aussi de l'hôtellerie. Beaucoup d'établissements ont du mal à retrouver un rythme de réservation normal. Des hôteliers ont donc eu l'idée de créer une plateforme Sauve ton hôtel, le principe des paiements directs entre hôteliers et clients sans passer par Booking. Rémi Inc.
Après plus de 2 mois et demi de fermeture, Julie Ponto, gérante et propriétaire de l'hôtel Saint-Louis à Brest, n'a toujours pas retrouvé sa clientèle.
Sur le mois de juin, je pense qu'on a fait un tiers du chiffre d'affaires de l'année dernière. On tient bon, mais c'est vrai que ça peut pas durer comme ça.
Alors elle s'est inscrite gratuitement sur la plateforme Sauve ton hôtel.
Un bon levier complémentaire en fait à tout ce qu'on a déjà en notre possession par notre site internet ou par les publicités, etc. Et pour aussi prouver aux gens qui réservent que on paye toujours moins cher en direct.
Appeler directement l'hôtel sans passer par des sites de réservation, changer les habitudes des clients, c'est l'objectif de la plateforme Sauve ton hôtel. Kevin Machefer en est le fondateur.
Il y a un vrai sujet de relance économique et le but c'est quelque part sur cette plateforme de faire rencontrer une offre et une demande de la manière la plus simple possible. C'est cette approche circuit court de l'hôtellerie avec des avantages quelque part de reconnaissance que l'hôtelier peut mettre sur la plateforme que le client ne trouvera pas forcément ailleurs.
Des avantages comme des réductions de 5 à 25% sur le prix des chambres, des visites gratuites de la ville, des passes pour les musées ou des cocktails de bienvenue.
Dis-moi, challenge, qui est le plus riche en France ? La crise sanitaire redistribue les cartes dans les fortunes de notre pays. Le magazine publie son classement annuel. Le montant cumulé des 500 plus grandes fortunes a progressé de 3% en 2020. Martin Bourdin.
C'est une barre symbolique qui n'avait jamais été atteinte en France. 100 milliards d'euros, le montant désormais de la fortune de Bernard Arnault, le patron de LVMH. Fortune qui a encore augmenté en un an et ce n'est pas un hasard. Le luxe est un secteur qui a bien résisté à la crise sanitaire. D'ailleurs, sur le podium, on retrouve la famille héritière du groupe Hermès, deuxième, et les propriétaires de Chanel, troisième. La cosmétique, le numérique ou encore le secteur de la santé s'en sortent bien. Également, Alain Mérieux, le patron du laboratoire Biomérieux, a ainsi vu sa fortune augmenter de 54% en un an. Mais dans d'autres secteurs. La crise a fait de gros dégâts dans l'hôtellerie-restauration, notamment Olivier Bertrand, le patron d'enseignes comme Burger King, Hippopotamus ou la brasserie Lip, a vu son patrimoine se réduire de 27% en une année. Désormais 207e fortune de France, il perd 41 places au classement.
Oui, et dans ce classement, à la 9e place, Patrick Drahi, 12,5 milliards de fortune, plus 39% par rapport à 2019. J'en parlerai avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF tout à l'heure. Il est 7h10. Allez, parlons des cigarettes. Je reviendrai aussi sur le projet d'accord sur au moins 180 euros mensuels nets pour les soignants hors médecins. L'accord a été trouvé. Hier matin, j'en parlais à Jean Castex. Il était ferme. Il me disait que l'accord serait trouvé. Aujourd'hui, je dis, l'accord est trouvé. Nous y reviendrons en détail avec notamment Geoffroy Roux-de-Bézieux. Mais je voudrais appeler Philippe Coy. Philippe Coy, bonjour.
Bonjour.
Oui, président de la Confédération des buralistes français. Philippe Coy, les députés veulent limiter les achats de cartouches à l'étranger. Hier, le gouvernement a défendu un amendement voté à l'Assemblée nationale. C'est pas encore définitif parce qu'il va falloir passer par le Sénat et revenir à l'Assemblée, mais tout de même, de quoi s'agit-il ? Eh bien, au lieu, si vous allez acheter vos cigarettes à l'étranger, en Europe notamment, au lieu de pouvoir ramener 4 cartouches, nous ne pourrons ramener qu'une seule cartouche, une cartouche et demie en Andorre. Votre réaction ?
Elle est que positive et je salue cette initiative portée par le gouvernement et son ministre Olivier Dussopt. C'est un travail de longue haleine. Nous avions une vraie inquiétude sur ces importations. Vous le savez, vous le dites souvent sur votre antenne, le marché parallèle est une réalité. Nous ne sommes pas contre la santé publique, nous sommes contre l'injustice. Ce marché parallèle qui s'est installé aux quatre coins du territoire. Et en 2018, Gérald Darmanin, dans ses fonctions, avait déjà, dans le cadre de la loi fraude, instauré un seuil limitatif à 4 cartouches. Malheureusement, Jean-Jacques, nous venons de vivre un épisode compliqué. La pandémie et la fermeture des frontières nous a donné un enseignement majeur. Les Français ont consommé plus de tabac. Donc, ça prouve bien qu'il y avait une réelle évasion. Nous avions interpellé le gouvernement dès la sortie du confinement pour que ces chiffres soient explorés et que des solutions soient trouvées. Et je me félicite que le travail engagé avec Gérald Darmanin il y a quelques jours ait trouvé une continuité dans l'action de Olivier Dussopt, car aujourd'hui, on parle de milliards qui s'enfuient de nos recettes.
Oui. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ? Parce que les contrôles sont rares. Je sais bien que les sanctions ont doublé l'année dernière. Elles peuvent aller jusqu'à 5000 euros de sanctions. Mais les contrôles sont rares. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le comportement de ceux qui vont acheter leurs cigarettes en contrebande ? Pas en contrebande, à l'étranger. C'est une forme de contrebande.
Jean-Jacques, les contrôles ne sont pas rares, ils sont bien présents et notamment, on s'était attaché avec l'administration des douanes que le 15 juin, quand il y a eu l'ouverture des frontières, les forces de douane soient présentes. Sauf qu'ils nous ont remonté que bien souvent, le seuil n'était pas forcément dépassé et c'est pour cela que nous avons forcé ces derniers jours à ce que le Parlement et le gouvernement prennent une position ferme. Parce que d'un côté, il y a la santé publique, il y a les recettes publiques et il y a un réseau de 24 000 entrepreneurs qui aujourd'hui est une victime collatérale de plusieurs années de dogmatisme de politique fiscale. Donc, vous savez que le prix du tabac en France est le plus élevé de l'Europe continentale. C'est un sujet que j'aborderai dans les prochains jours, là aussi avec le gouvernement. Mais cette mesure qui a été, vous l'avez très bien dit, adoptée en première lecture hier soir est un signe fort, notamment le 8 juillet, puisque nous sommes au début des grandes vacances, peut-être de mouvements qui vont se passer au niveau des frontières. Et cela est un signe rassurant. On parle de la relance, et pour avoir de la relance et de la croyance dans cette relance, il faut avoir une vision. Je tiens à saluer cette mesure.
Bien, merci beaucoup Philippe Coy. Hein. Merci et vous réagissez 3216rmc.fr. Allez-y, racontez-nous. Beaucoup de réactions sur le sujet depuis ce matin. Anaïs Castagnier qui regarde les messages là, a pu le constater, n'est-ce pas Anaïs ?
On a pas mal de réactions avec surtout des gens qui nous disent que ça va rien changer du tout. Je vais continuer à aller au Luxembourg, nous dit notamment Mickaël.
Bien, Stanislas Godon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général du syndicat Alliance Police Nationale. Ce n'est pas vous, hein. Les contrôles aux frontières, ce sont les douaniers. Pour les cigarettes, la contrebande.
Essentiellement, oui.
Mais vous travaillez aussi sur la contrebande.
Oui, il y a parfois des services d'enquête.
Mais c'est difficile, vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça, non ?
Déjà, on a les frontières dont il faut s'occuper.
Oui.
Et puis, il y a des spécialistes, notamment les douaniers, les douanes volantes, par exemple, qui travaillent beaucoup les zones frontalières pour empêcher notamment ces trafics.
Ces trafics. Stanislas Godon, les syndicats de policiers ont rencontré le nouveau ministre Gérald Darmanin. Alors, je sais bien qu'on juge un ministre aux actes et non pas à une première rencontre, à ce qu'il dit lors d'une première rencontre. Mais que lui demandez-vous là ce matin ?
Alors, des actes, oui, ça vous l'avez redit.
Oui.
Il a eu des mots très forts. Protéger, défendre et soutenir les policiers.
Oui.
En commençant par là, on a déjà fait un premier pas. Maintenant, vous savez qu'on est en plein dans la construction notamment du budget 2021, budget qu'il connaît par cœur, puisqu'il arrive avec une double casquette. Et bien, la première des choses qu'il doit faire, c'est aller auprès de Bercy, et je crois qu'il a un rendez-vous de programmé notamment, pour défendre le budget de la police nationale, parce qu'il y a urgence pour notamment mes collègues sur le terrain.
Voilà, que voulez-vous dans ce budget? Alors, je sais pas, des augmentations de salaire, du matériel, que voulez-vous?
Alors,
quoi avez-vous besoin?
Alors, dans un premier temps, il faut améliorer absolument les conditions de vie et de travail des policiers.
Oui.
Vous le savez mieux que personne, il y a des commissariats qui sont dans un état déplorable, notamment pour l'accueil du public, pour notamment le contexte de travail au quotidien des policiers. Je rappelle que les policiers, c'est H24, 365 jours dans l'année. Les véhicules de la police nationale, quand on a encore des véhicules qui ont pratiquement 300
000... J'ai l'impression que ça s'est amélioré quand même.
Alors amélioré, non, d'ailleurs il y a un rapport de la Cour des comptes très intéressant qui dit que on n'arrive pas à rajeunir le parc automobile dans la police nationale, puisqu'il faut à peu près 4000 véhicules par an pour un renouvellement j'irais digne de ce nom, et actuellement on est plutôt à 2500. D'ailleurs c'est en baisse depuis 2 ans, juste comme ça au passage.
Les voitures électriques, donc, la police est obligée de rouler
en voiture électrique.
Mais je ne sais pas, non, peut-être, je dis ça
il faut
ça,
en tout cas des voitures qui soient adaptées notamment au travail au quotidien. On se rappelle, il y a eu un épisode assez ubuesque, on avait eu des voitures et elles ne pouvaient pas soutenir notamment tout le matériel d'équipement qui était dans les coffres. Vous voyez, ça fait partie des choses absolument incohérentes qui ont été faites les années précédentes. Donc ça, ce sont les premiers points, des conditions de vie et de travail améliorées des policiers. Sur la partie indemnitaire, il faudra penser évidemment à nos collègues nuiteux qui sont toujours à 97 centimes d'indemnité par heure la nuit.
C'est
absolument, je dirais, inadmissible par rapport au travail, à l'engagement et au risque aussi qu'ils prennent, hein, parce que la nuit, vous ne travaillez pas comme le jour, même s'il y a des risques pour tous les policiers. Je rappelle d'ailleurs 18 policiers blessés par jour. C'est ça le chiffre d'aujourd'hui sur la réalité de la violence à l'encontre des policiers. Et puis enfin, dernier élément, et là il va falloir que le ministre de l'Intérieur travaille en combinaison avec le nouveau garde des Sceaux, c'est la réponse pénale, la chaîne pénale, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand même dans ce pays. Et je me rappelle, j'étais sur votre plateau il y a quelques temps et je vous avais dit que nous n'avons pas les retours, par exemple, des outrages, des agressions envers les policiers. Nous ne savons pas comment est-ce que ces individus que l'on interpelle, qui sont mis à disposition de la justice, sont condamnés. Parfois, d'ailleurs, ils ne le sont pas.
Oui, ils ne le sont pas. Et ça, ce sera le travail du garde des Sceaux. Mais je crois qu'il est assez sensibilisé à ces questions-là.
Hein. Oui, oui.
Lui, qui est un avocat, bon, connaît ces questions-là. Stanislas Godon, le ministre de l'Intérieur est accusé. Une plainte a été déposée contre lui. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Parce que je n'imagine pas des policiers l'interrogeant. Franchement.
Alors, écoutez,
vous l'imaginez?
On va pas commencer. Vous savez qu'on a toujours eu le discours de dire qu'il n'y a pas de présomption de culpabilité, il y a une présomption d'innocence.
Oui, ça, je suis totalement d'accord.
Donc, on va mettre ça de côté.
Oui.
J'ose espérer qu'avant de prendre le portefeuille ministériel, des choses ont été quand même calées et qu'il y a eu des renseignements qui ont été pris. Maintenant, nous, c'est pas notre sujet. Nous, syndicalisme policier, qu'est-ce qu'on attend du ministre? C'est qu'il nous soutienne et qu'il nous donne les moyens de travailler.
Alors, j'ai une autre question, Stanislas Godon. Il s'agit pas non plus de demander au ministre de l'Intérieur, nouveau ministre, d'absoudre les policiers lorsqu'ils commettent des fautes.
Mais ça n'a jamais été le cas. Les policiers n'ont jamais été absous. Lorsqu'ils commettent des fautes, ils sont sanctionnés. Ils ont trois sanctions. Je vous le redis.
Allez-y.
Les sanctions judiciaires, les sanctions administratives, et puis les sanctions sur la carrière, faut pas l'oublier, parce que quand vous êtes sanctionné au sein de la police nationale, c'est très compliqué d'avoir des promotions à l'avancement, d'intégrer parfois des services un peu spécialisés aussi.
Et est-ce qu'il faut réformer l'IGPN ou pas?
Franchement. Écoutez, alors,
rendu plus indépendante ou pas. J'entends ça dans la bouche de l'opposition, bien souvent.
Oui, mais parce qu'en fait, ils ne savent pas comment travaille l'IGPN. D'abord, je vais rappeler quelque chose. Quand on nous a expliqué que les policiers, dans le cadre d'affaires judiciaires notamment, où on essaye de faire la manifestation de la vérité lorsqu'il y a des manquements supposés, les policiers ne travaillent pas sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Les policiers travaillent sous la coupe d'un magistrat, parce qu'ils sont sous le coup d'une information judiciaire parfois, et ils travaillent sous l'autorité notamment du parquet. Donc il n'y a pas de couvercle qui est mis sur des fautes, notamment des fonctionnaires de police.
Merci Stanislas Godon d'être venu nous voir ce matin. Merci le syndicat Alliance. 7h20, vous êtes sur RMC. Allez, Anaïs Castagna, que vous vouliez...
La France sort demain d'état d'urgence sanitaire. Nouvelle étape vers un retour à la vie normale. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous, Français, qui nous écoutez ce matin? Marie Dupin va vous répondre dans un instant. Tout de suite.
RMC.
Dupin quotidien.
Marie Dupin est avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour.
L'état d'urgence sanitaire prend fin demain. Qu'est-ce que ça va changer concrètement?
Ça a changé plusieurs choses. D'abord, vous savez, depuis le 16 mars, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires pouvait être exonérée d'impôt sur le revenu jusqu'à 7 500 euros. Ça va être terminé. Le plafond d'exonération reviendra à son montant initial, c'est-à-dire 5 000 euros. Autre retour à la normale, pendant l'état d'urgence sanitaire, le délai de carence de 3 jours en cas d'arrêt maladie dans le secteur privé, 1 jour dans le secteur public avait été suspendu. Et bien, à partir de la fin de cette semaine, le délai de carence s'appliquera de nouveau.
Bien, l'état d'urgence sanitaire va être levé, mais le gouvernement conserve la possibilité, et hier, le Premier ministre nous l'a dit, de prendre rapidement de nouvelles mesures de restriction. Il nous a bien dit qu'il y avait un plan de confinement, de reconfinement qui était prêt. Mesures de restriction en cas de recrudescence de l'épidémie, évidemment.
Jusqu'à fin octobre, le gouvernement pourra prendre des décrets pour lutter contre la propagation du virus. Donc, il pourra réglementer ou interdire la circulation des personnes ou des véhicules, l'accès aux moyens de transport en commun, l'ouverture au public de certains établissements comme les cafés et les restaurants. Il pourra aussi réglementer les rassemblements de personnes, les manifestations, les activités sur la voie publique ou encore imposer des dépistages aux personnes qui se déplacent en avion entre la métropole et certaines régions d'outre-mer. Et
ces mesures transitoires ne prévoient pas en revanche la possibilité d'ordonner un confinement généralisé de la population.
Effectivement, pas de confinement généralisé avec interdiction de sortie du domicile, mais des confinements localisés pourront être envisagés. Enfin, le port du masque dans les transports en commun reste obligatoire jusqu'à 4 mois après la fin de cet état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire jusqu'en novembre au moins.
Merci Marie. Assia.
Assia,
bonjour.
Oui,
une Parisienne avec nous. Ça va, Assia?
Oui, et c'est un honneur pour moi, vraiment.
Moi aussi, Assia.
Je suppose que vous vous rappelez de moi.
Assia, allez-y.
Oui, c'est... alors je voulais vous dire,
Sur la route, Assia, c'est ça?
Comme d'habitude, routière. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier de la part de tous les routiers, je pense, ceux qui m'écouteront d'accord avec moi, de nous avoir accompagnés autant d'années. Vous avez été, et vous êtes, une créature fidèle et loyale, et ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir.
Je tiens beaucoup à la loyauté. C'est pas le cas de tout le monde, mais je tiens beaucoup à la loyauté.
Mais je sais, c'est une qualité que tout le monde n'a pas. C'est un principe et une éducation. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait, Monsieur Bourdin. Je suis dégoûtée que vous partez. Mais ça me fait plaisir de vous parler avant que vous partiez.
Écoutez, merci beaucoup, Assia. Merci.
De rien, Monsieur
Ça me
Bourdin.
Fait plaisir. Vraiment, ça me
à
fait
bientôt.
Plaisir. Et
merci
à bientôt,
beaucoup.
Assia. Et je vous embrasse, tiens. Je peux, hein?
Oui, bien évidemment.
Bon.
Si vous me voyez. Vous me voyez sur la route. J'ai un camion qui passe pas inaperçu. Il y a un gros viking dessiné dessus. N'hésitez pas à me persigner, Monsieur Bourdin.
D'accord.
Il y a un gros
Assia.
Viking avec une petite minette au volant. Vous pouvez pas me.
Salut, Assia. Au revoir. Bonne route, Assia. Génial, Assia. Non, ça vous fait rire, Charles?
Oui.
Non, elle est géniale.
Mais oui.
Vous l'avez croisée, Assia. Je suis sûr que vous l'avez croisée.
Donc,
on
croit vite pour ça.
Oui. L'actu, moins vite que moi. L'actu des réseaux sociaux sur Twitter. La diplomatie française fait une jolie boulette.
Oui, un petit souci de traduction.
Alors,
je vous explique.
Bien.
Sur son compte international, French Diplomacy, le ministère des Affaires étrangères a tweeté des messages très officiels en anglais pour annoncer le remaniement ministériel, notamment le fait que Franck Riester est devenu ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Et donc, dans le tweet en anglais, on peut lire que Franck Riester est désormais, je cite, « Minister Delegate for Foreign Trade », donc le commerce extérieur, « and attractiveness » pour attractivité. Sauf qu'en anglais, « attractiveness », ça veut dire charme, séduction. C'est ce qu'on appelle un faux ami. Résultat, ce tweet assez banal fait un carton à l'étranger auprès des anglophones.
Ouais.
Des milliers de commentaires d'internautes morts de rire en découvrant que la France a désormais un ministre délégué au charme et à la séduction. Il n'y a que la France pour avoir un ministre du charme, écrit un internaute. Ça s'annonce chaud pour les relations internationales, dit un autre. La France est donc prête à tout pour attirer les investisseurs, souligne un Américain. Chacun y va de sa proposition pour le poste, de Georges Clooney à Benjamin Griveaux. Bref, comme le résume un internaute, en France, on n'est peut-être pas très bon pour parler anglais, mais au moins, on a un ministre des beaux gosses.
Oui, puisqu'on parle de séduction sur Tinder, on pourra bientôt draguer en vidéo.
Mais oui, Jean-Jacques, l'appli de rencontre la plus utilisée dans le monde veut permettre aux célibataires d'accélérer les choses. Jusqu'ici, sur Tinder, vous pouviez faire défiler les profils et discuter par écrit avec ceux qui vous plaisent avant de passer éventuellement à la rencontre physique. Désormais, avec cette nouvelle fonction, vous pourrez voir la personne avec laquelle vous discutez. Vous aurez le choix, il suffira d'appuyer sur un bouton. Et si les deux célibataires sont d'accord, la discussion vidéo se lance. Seulement, quand on parle de séduction en vidéo sur
Internet. Je vois Anaïs sourire. Oui, on peut craindre le comportement de certains. Alors Tinder précise bien que la nudité est prescrite, mais Tinder ne modérera pas directement les vidéos. Ce sera aux célibataires de faire attention lorsqu'ils accepteront un dialogue vidéo à distance.
On ne va pas demander de commentaires à Anaïs, hein, Charles.
Non, je l'ai envoyé ce sourire.
Bon, d'accord.
Allez, mais il faudra faire attention aussi pour voir où vont tomber ces vidéos, parce que pour évidemment. Les jeunes filles qui se font voir.
Ça, je suis d'accord.
Ouais, précaution.
Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas.
Jean-Jacques.
Vous allez nous expliquer. J'ai souhaité qu'on parle de cet homme. Il s'appelle Tommy Recco. Il a 86 ans. C'est le plus vieux détenu de France. C'est cela ?
Ah, il bat tous les records de longueur.
86 ans, il est toujours en prison.
Il est en prison depuis 1960. J'étais pas né et vous étiez en culotte courte, Jean-Jacques, quand il est rentré.
Mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable.
Alors pourquoi une si longue...
Vous n'étiez même pas journaliste.
Non, en culotte courte. En culotte courte, vous étiez en 1960.
Oui, oui.
Il a été condamné pour 7 meurtres en tout. Il a purgé 2 fois perpète. Il a fait d'abord 17 ans, ensuite il est sorti, il a retué 6 personnes. Pourquoi il est toujours en prison après plus de 57 ans de détention? Et bien notamment parce que le mari d'une de ses victimes a juré sur le cadavre de sa femme de ne jamais le laisser sortir. Et depuis, il s'acharne pour qu'il ne soit pas libéré.
C'est une histoire absolument extraordinaire que va nous raconter tout à l'heure Nicolas Poincaré à 8h10. Il est 7h30, Anaïs.
On va parler du coronavirus qui tue 2 fois plus chez les immigrés. C'est ce que nous dit une étude de l'INSEE. On sera avec Mathias Vargon, chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, pour en parler.
Il est 7h31, Julien Coudreau est là pour les dernières informations. Julien, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Entre chagrin et colère, 6000 personnes rassemblées hier soir à Bayonne. Marche blanche en soutien aux chauffeurs de bus agressés dans la ville dimanche dernier. Refuser d'en parler serait irresponsable. Jean Castex relance les discussions sur la réforme des retraites, mais ce n'est pas la priorité des syndicats conviés dès ce matin à Matignon. Et puis le gouvernement au chevet des buralistes. Les députés ont voté une réduction des achats de tabac autorisés dans les pays frontaliers. 6000 personnes, toutes vêtues de blanc dans les rues de Bayonne hier soir. Marche silencieuse en hommage à Philippe Monguillot. 3 jours après sa violente agression dimanche dernier, le cortège s'était lancé de l'arrêt de bus où le conducteur a été pris à partie, roué de coups jusqu'à l'hôpital où il se trouve toujours en état de mort cérébrale, Olivier Chantreau.
Entourée de ses 3 filles, toutes de blanc vêtues, Véronique ouvre la marche sous les applaudissements, visiblement émue devant cette foule immense. À fleur de peau, l'épouse du chauffeur de bus réclame vengeance.
Je veux me battre jusqu'au bout. J'ai la force en moi, j'ai la colère et je vais y aller. J'ai pas peur, la justice va être avec moi. Et la justice va m'aider à venger mon époux. Je lui ai promis, je lui ai dit dans l'oreille, je vais te venger. Et je le ferai.
Derrière la famille de Philippe, tous ses collègues font bloc. David est l'un d'entre eux et il n'en revient pas de voir autant de monde.
Le moment qu'on vit, la famille, ce qu'ils vivent, c'est surréaliste. Fort en émotion, fort pour la famille, fort pour notre collègue. Il n'y a pas de mon fils, c'est surtout un ami, plutôt qu'un collègue, qui on soutient énormément.
Et ce soutien, Véronique le leur rend bien.
Il faut que pour eux, maintenant, ils aillent au boulot sans le nœud dans le ventre. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour eux. Que ce qui s'est passé à mon époux ne se reproduise pas pour eux.
Pendant l'hommage, par solidarité avec Philippe et sa famille, de nombreux chauffeurs de bus ont débrayé pour une minute de silence dans tout le pays.
Et du côté de l'enquête, 4 suspects ont passé leur première nuit en prison, placés en détention provisoire. 2 d'entre eux sont mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. C'est l'un des dossiers sociaux les plus sensibles laissés en jachère par la crise sanitaire. Jean Castex rouvre ce matin le chantier de la réforme des retraites. Le Premier ministre commence à recevoir les partenaires sociaux à Matignon, mais les syndicats ne jugent pas prioritaire cette reprise des discussions alors que l'économie française accuse le choc de la crise sanitaire, comme l'explique le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
L'urgence, c'est l'emploi. Pourquoi on va rejeter de l'huile sur le feu sur un sujet? Sur le fond, tout le monde n'est pas d'accord. Mais sur la forme, tout le monde dit que ce n'est pas la priorité. L'urgence, c'est régler les problèmes d'emploi. Parce qu'on a une première vague de licenciements, de restructurations. Et celle qui s'apprête à venir, en septembre, elle sera pire. Donc attaquons-nous à ce problème. Quelle solution on trouve? Et puis les jeunes, qu'est-ce qu'on leur dit? Attendez, on s'occupe de la retraite.
Et c'est Laurent Berger de la CFDT qui ouvre le bal ce matin à Matignon, suivi de Force Ouvrière et du MEDEF. Son président Geoffroy Roudeux-Bézieux est l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans une heure. Rendez-vous à 8h35 sur RMC et BFM TV. Une cartouche seulement, au lieu de 4 jusqu'à présent. Si vous achetez vos cigarettes en Belgique, en Espagne ou encore en Italie, il faudra bientôt vous limiter. L'Assemblée nationale a voté hier soir une réduction des achats autorisés dans les pays voisins avant de les ramener en France. Le nouveau ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, met en avant un objectif de santé publique, mais aussi de soutien aux buralistes.
Cet amendement s'inscrit dans la démarche du gouvernement pour lutter contre le trafic de tabac, notamment les trafics frontaliers. La période de confinement a mis en avant le fait que la consommation de tabac pouvait assez considérablement varier lorsque, en tout cas chez les buralistes français, en fonction de l'ouverture et de la fermeture des frontières. Et donc, nous allons un peu plus loin avec cet amendement.
Et ce matin, sur RMC, le président de la Confédération des buralistes, Philippe Coy, salue un signe fort et rassurant. Les négociations du Ségur de la Santé, elles se sont poursuivies jusque tard. Hier soir, le gouvernement propose une hausse de salaire des soignants en deux temps, 90 euros net dès septembre prochain, autant en mars 2021, soit 180 euros au total. Les syndicats en espèrent toujours 300. Un plan de dépistage massif du Covid lancé la semaine prochaine en Mayenne. 300 000 personnes sont invitées à se faire tester dans les prochaines semaines. Le nombre de contaminations, nous en parlions hier sur RMC, a quadruplé en moins de 15 jours dans le département. Les experts du Conseil scientifique appellent d'ailleurs ce matin les Français à se ressaisir alors que les gestes barrières semblent de plus en plus ignorés. Caroline Philippe.
Le meilleur médecin que nous pouvons avoir, c'est nous-mêmes. Une manière pour le professeur Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, de rappeler les Français à l'ordre.
Nous sommes très frappés par le fait que les mesures barrières et les mesures de distanciation sociale ne sont plus respectées. Et qu'il ne faut pas croire qu'on va rester sur cet équilibre tranquille si on continue à ne plus utiliser les mesures barrières et les mesures de distanciation sociale. Nous devons revenir, et y compris pour les populations les plus jeunes, aux mesures de distanciation, sinon on a un risque pendant l'été.
Tout dépend de nous, également pour les tests. Que vous soyez à votre domicile ou sur votre lieu de vacances, il ne faut pas hésiter à se faire dépister, rappelle Franck Chauvin, membre du Conseil scientifique.
C'est pas parce qu'on n'est pas à côté de chez soi qu'il faut relâcher l'attention. On a des capacités de tests qui sont énormes, qui sont bien organisées sur l'ensemble du territoire. Et il s'agit maintenant que tous, chacun d'entre nous, nous y allions.
Parmi les personnes qui présentent des symptômes du coronavirus, seule une sur deux se fait dépister, selon le Conseil scientifique.
Eux ne voient pas le bout du tunnel. Toujours aucune date de réouverture à l'horizon pour les discothèques. Alors que bars et restaurants ont repris leur activité, les professionnels de la nuit ont le sentiment d'être les grands oubliés du déconfinement, Florian Chevalet.
Les lumières sont allumées, la boule à facettes ne tourne plus et la salle résonne. Depuis 4 mois, c'est le cœur lourd que Fabien revient seul dans sa boîte de nuit.
C'est un établissement qui a été créé pour qu'il y ait du monde, pour que... Et là, de le voir vide comme ça, c'est sûr que ça fend le cœur.
Il déplore déjà 150 000 euros de perdus à cause de la crise.
On a raté tous les ponts du mois de mai, on a raté les festivités du 14 juillet, où c'est aussi une grosse soirée, on a loupé la fête de la musique le 21 juin.
Ce qui le révolte aujourd'hui, ne pas savoir quand il va pouvoir ouvrir.
Il y a 2 semaines, je suis venu un vendredi à 2h du matin, la rue était blindée. J'ai même un voisin qui m'a dit, ah bah dis donc, on est c'est que vous ouvrez parce que nous on est débordés. Forcément ça nous fait mal au cœur.
Interrogé hier sur la question à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, Olivier Véran, ne donne toujours aucune date de réouverture. Aurélien Dubois, président de la chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes, dénonce une communication dénigrante pour son secteur.
Et on nous parle par écran interposé avec un sourire en coin en disant vous pensez que vous allez ouvrir? Non pas du tout, mais c'est pas ça qu'on demande. On sait très bien que pour l'instant on peut pas rouvrir. Il faut pas nous prendre pour des abrutis non plus. Faut nous parler comme à des gens responsables et avoir un peu de considération, parce que sinon il va y avoir des problèmes.
En attendant une date de réouverture, il demande des aides pour soutenir un secteur au bord de la rupture.
7h38 sur RMC, les courses, les pronostics de la Dream Team d'RMC pour le Quintet à Paris-Longchamp, Anaïs.
13h50, pronostic de la Dream Team des courses RMC, favorite numéro 9, Bagel, outsider numéro 10, Bidadieu.
Si nous parlions du coronavirus, tiens, pour changer un tout petit peu, Mathias Vargon est avec nous, chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Mathias Vargon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Masque obligatoire, tiens, je me tourne vers Quentin Vinet, masque obligatoire en Catalogne. Le port du masque devient obligatoire à partir d'aujourd'hui dans toute la Catalogne, la Costa Brava, partout. Barcelone, partout, Quentin Vinet.
Exactement, obligatoire dans tout l'espace public à l'intérieur.
mais aussi à l'extérieur. C'est ça la nouveauté. Jusque-là, c'était pas obligatoire à l'extérieur. Et même si la distanciation sociale est respectée. C'est-à-dire qu'en Catalogne, quand on est dehors, on doit porter le masque. Pourquoi? Pour éviter l'apparition de nouveaux foyers, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que là-bas aussi, eh bien, les autorités constatent un certain relâchement dans l'utilisation des masques. Et ceux qui ne le porteront pas à partir d'aujourd'hui s'exposeront à une amende de 100 euros. Ça vaut donc effectivement pour toute la région, Barcelone, mais aussi Lérida, bien sûr, où 200 000 personnes sont en partie confinées depuis le début du mois. Entrée, sortie contrôlée pour éviter que la hausse des contaminations dans cette zone ne se propage au reste de la Catalogne.
Et ça vaut aussi pour la Junquera, pour la frontière entre l'Espagne et la France.
Là où les Français vont faire les courses.
Là où les Français vont faire les courses, acheter leurs cigarettes, même s'ils ne peuvent ramener qu'une cartouche maintenant et non pas quatre. Enfin bon, voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Anas? Pas encore bientôt. Oui, c'est pas encore totalement voté.
Mais ça vaut pour toute la Catalogne.
En première lecture à l'Assemblée. Ça vaut pour toute la Catalogne. Alors Mathias Vargon, est-ce qu'il faudrait imposer cela en France?
J'en sais rien. Ce qui est évident, c'est que le port du masque, après que tout le monde ait demandé des masques, c'est vrai que quand on voit les gens qui portent un masque, alors dans la rue, moi je sais pas s'il faut porter un masque dans la rue.
Oui.
C'est quelque chose dont on peut discuter, mais à l'intérieur, bah, c'est compliqué de porter un masque, mais même chez nous à l'hôpital, ça devient compliqué. Enfin, tout le monde le fait pour les patients.
Est-ce qu'à l'hôpital, tout le monde porte un masque au sein? Allez.
Oui, oui et non. Oui, mais on mange quand même ensemble, on fait quand même des choses ensemble, donc c'est compliqué aussi. Mais maintenant, oui, si on considère qu'il faut porter le masque, et puis il faut porter le masque et le porter correctement. Ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui le portent sous le nez, qui le portent. Donc voilà.
Qui ne changent pas de masque, par exemple.
Qui ne changent pas de masque. Mais encore une fois, moi, j'ai du mal à jeter la pierre. C'est compliqué, il fait chaud, c'est un peu insupportable. Mais voilà, c'est une habitude à prendre. Probablement qu'on va se diriger de toute façon vers un port du masque plus généralisé pour plus de maladies que ça. Oui, et puis il faut aussi être civique. Hein. C'est un petit peu le problème dont on parle depuis le début. C'est-à-dire que chacun doit avoir un comportement civique, c'est-à-dire porter le masque correctement, se laver les mains. Et ça va éviter non seulement le coronavirus, mais aussi les autres pathologies. L'objectif, c'est à la fois d'éviter des patients graves, mais aussi d'éviter de faire déborder le système de santé. Et éviter de faire déborder le système de santé, c'est éviter le coronavirus, mais c'est éviter les autres pathologies transmissibles.
Alors justement, vous dirigez les urgences de l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, aux urgences. Deux questions. Un, est-ce que vous voyez arriver à nouveau des patients Covid, plus qu'avant? Quels sont les autres patients que vous voyez peut-être revenir?
Alors, du patient Covid, non. Pour l'instant, on n'en voit pas. De façon très claire. Alors, il y a eu un petit tour de table des chefs de service des urgences hier sur WhatsApp. Il y en avait quelques-uns qu'on avait vus, mais globalement, on n'en voit pas.
Oui.
C'est d'ailleurs extrêmement étonnant.
Oui.
Parce que nous, on s'attendait quand même à en revoir. En Seine-Saint-Denis, on a déconfiné assez tôt. Il y a des populations qui sont moins touchées par la communication. Et pour l'instant, en tout cas à Saint-Denis, on n'a pas une vague qui est arrivée de patients Covid. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, les patients qui viennent aux urgences, bah, c'est tous ceux qui venaient avant. C'est-à-dire qu'on est quasiment revenu à notre état de base, avec des gens qui prennent les urgences pour autre chose que ce pour quoi elles sont faites. Et puis, on a eu des patients qui ont décompensé. On a vu beaucoup, beaucoup de diabétiques en post-urgent, en post-Covid, qui sont arrivés, des diabétiques très gravement décompensés. Oui. On en a eu beaucoup, ce qu'on appelle l'acidocétose diabétique, de façon assez inexplicable, puisqu'ils sont arrivés après et pas pendant. Hein. Et puis, on a fait face à une vague de patients graves psychiatriques, c'est-à-dire des patients psychotiques, qui sont arrivés aux urgences, et ça, c'est directement dépendant du Covid, avec une perte de repères, une perte de l'encadrement thérapeutique, enfin voilà.
Bien, Mathias Vargon, vous restez avec nous, on va faire un peu de pub, et nous nous retrouvons dans 2 minutes, 7h42.
RMC. RMC,
6h-9h, Bourdin Direct. Mathias Vargon est notre invité ce matin, chef des urgences de l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis. Étude parue avant-hier, l'INSEE démontre qu'au plus fort de la pandémie de coronavirus, pendant les mois de mars et avril, l'augmentation du nombre de décès a été deux fois plus forte pour les immigrés et les personnes vivant dans des quartiers populaires que pour les personnes nées en France et vivant dans des quartiers plus aisés. Ça vous surprend ou pas, Mathias Vargon?
C'est pas tellement surprenant, c'est un peu ce qu'on avait comme idée au moment du plus fort de la crise. C'est des données INSEE, donc c'est des données qui sont quand même un peu loin du terrain malgré tout.
Oui.
Il y a cette étude-là combinée à celle de l'Observatoire Régional de Santé d'Île-de-France, mais qui reprend des données INSEE également, mais qui est intéressante aussi parce que eux se sont pas concentrés sur l'origine des gens, mais là où ils habitaient. Et donc on voit bien que c'est les quartiers populaires qui sont les plus touchés. On voit que en Île-de-France, c'est à la fois la plaine Saint-Denis, c'est ce qu'ils appellent l'intercommunalité, mais aussi ce qui se passe au nord, qui est proche de l'Oise, qui était un des clusters du début. Et puis, on voit bien que c'est lié à la densité de la population, puisque les parties les moins denses d'Île-de-France sont celles qui sont le moins touchées. Donc, c'est pas très étonnant, hein. Toutes les grandes épidémies ont touché des villes, ont touché des zones denses.
Ça a toujours été le cas.
Ça a toujours été le cas. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a la densité de population. Il y a la pauvreté de la population.
Oui. La proximité dans le logement.
Exactement, oui. Et puis il y a le logement salubre, insalubre. Le fait que les gens soient nés à l'étranger, c'est essentiellement ce qui était montré, c'était l'Afrique dans son ensemble, Maghreb inclus. Donc on voit bien que c'est un souci de... Il y a un problème de pauvreté. Les immigrés sont moins riches. Ils vivent dans de moins bonnes conditions. L'accès probablement à la santé est moins bon. On l'a bien vu dans le 93, c'est un désert médical. À la fois pour des raisons... Il y a des raisons de désert, mais il y a aussi le problème de la langue, le problème du suivi médical. Tout ça fait que c'est une population plus touchée. On a vu que c'était essentiellement des jeunes. Et puis, c'est aussi des zones, en tout cas Saint-Denis, où on a une mortalité qui était relativement faible, puisqu'on a une population assez jeune. Et là, d'un seul coup, ça a touché des jeunes. Alors même si ça n'en touche pas énormément, ça a suffi pour augmenter la mortalité, pas seulement en pourcentage, moi j'ai bien regardé, mais aussi en valeur absolue. Hein.
Mathias Vargon, je change de sujet. Le Ségur de la santé semble en train d'aboutir, le gouvernement a fait une proposition de 180 euros net d'augmentation de salaire pour le personnel soignant. Apparemment, certains syndicats acceptent ces 180 euros net. Est-ce que vous pensez que dans vos services, est-ce que vous pensez que 180 euros net, ça va calmer les choses, ça va satisfaire toutes celles et ceux qui travaillent chez...
Alors, afin d'éviter toute polémique, on va quand même rappeler que je suis marié à une ministre.
Oui.
Et donc, je suis membre du gouvernement. De façon conjugale. Non, plus sérieusement.
Plus sérieusement.
Les gens ont demandé une augmentation. Je crois qu'ils demandaient 300 euros.
300 euros.
De toute façon, on est au-delà aussi. Alors, il y a l'argent, c'est important. Et moi, je ne vais pas me prononcer sur...
Il y aura des créations de postes aussi, d'après ce que j'ai compris.
Les créations de postes, c'est important. Moi, je pense que l'hôpital doit se réorganiser. Le système de santé doit se réorganiser complètement. À la fois pour permettre aux patients d'avoir un parcours de soins qui soit fait correctement, qui soit dans l'excellence. Mais l'hôpital, et ça, c'est un gros mot, à l'hôpital, il doit être plus efficient. Les moyens, il faut les mettre, mais il faut les mettre après une réorganisation. Il y a des services qui ont besoin de beaucoup de moyens.
Et pas forcément
les services d'urgence. Pas forcément.
C'est intéressant quand on dirige un service d'urgence.
Je l'ai dit pendant la crise, il y a une grande inégalité entre les différents services d'urgence. Il y a des services d'urgence qui sont dotés parfois deux fois plus de personnel que d'autres services d'urgence. Donc il y a une grande inégalité entre services d'urgence. Et c'est pas forcément les services d'urgence les moins bien dotés qu'on entend le mieux et le plus. Donc il y a cette organisation, mais il y a aussi la vie à l'hôpital ou la vie dans les cabinets. C'est-à-dire que il y a beaucoup de paperasse, les médecins généralistes se plaignent énormément de ça. Oui. Nous, on se plaint beaucoup aussi de ça. La qualité de vie au travail, quand j'arrive ici, que je vois des locaux qui sont propres, qui sont agréables à travailler, c'est pas le cas de l'hôpital. L'hôpital, c'est pas agréable d'y travailler. C'est pas organisé, c'est pas efficient. Le privé fait taille des croupières dans certains domaines à l'hôpital, à la fois parce qu'il a plus de moyens, mais aussi parce qu'il s'organise mieux. Il y a des médecins qui quittent l'hôpital, ou des infirmières qui quittent l'hôpital, pas seulement pour des questions d'argent, et l'argent, c'est important, mais aussi parce qu'on vit mal à l'hôpital et que parfois on vit mieux dans le privé.
Le cadre de vie,
mais aussi l'organisation. Quand un chirurgien attend ses patients, quand il ne peut pas opérer, c'est un problème. Quand n'importe qui peut bloquer toute une chaîne de soins, c'est un problème. Donc c'est une réforme du système de santé qu'il va falloir faire. Est-ce qu'il va falloir continuer à centraliser le système de santé, le régionaliser? C'est des questions qui se posent. Nous, on a monté un think tank qui s'appelle la Fabrique de la Santé. Je profite pour faire un peu de pub. On demande à des professionnels de santé des propositions pratiques et concrètes.
Merci beaucoup Mathias Vargon d'être venu nous voir ce matin. Merci, c'était un vrai plaisir. 7h52, c'est l'heure des explications. Merci. Avec Nicolas Poincaré. Nicolas, expliquez-nous. Bien, le plus ancien détenu de France reste en prison. Sa demande de suspension de peine a été refusée hier par la cour d'appel de Bastia. Il s'appelle Tommy Recco. Il a 86 ans et il a déjà purgé 57 ans de prison. Qui est ce prisonnier hors norme?
Ah ben c'est l'homme de tous les records, puisqu'il est emprisonné depuis 1960, avec juste une petite période de liberté au milieu. C'est la plus longue détention de l'histoire de la pénitentiaire depuis la fermeture du bail de Cayenne. Tommy Rocco, il vient d'une famille de pêcheurs et de poissonniers de Propriano en Corse. En 1960, il a 26 ans. Il était parti à la pêche à la dynamite avec son frère, pêche à la dynamite qui est interdite. Oui. Un garde-pêche arrive. Il se trouve que c'est le parrain de Tommy Rocco. Celui-ci a peur de se prendre une amende ou de se faire engueuler par son parrain. Bref, il lui tire dessus à la carabine et il l'achève en lui fracassant le crâne avec une énorme pierre de 30 kilos. Il faut dire que c'est un colosse. Il a ensuite été dénoncé par son petit frère. Il va avouer puis se rétracter et être condamné à la perpétuité. Il purge cette première peine entre 1960 et 1977.
2 ans de liberté. Et là, il récidive.
Oui, il commet un premier triple meurtre épouvantable en décembre 1979 à Béziers. Il braque un supermarché Mammouth. Il entre dans la salle où on est en train de compter la recette et il abat froidement les 3 caissières qui s'y trouvent. 3 jeunes femmes qui avaient entre 27 et 28 ans qui sont abattues de sang-froid chacune d'une balle dans la nuque. Et il s'enfuit avec l'équivalent de 300 000 euros d'aujourd'hui. 3 semaines plus tard seulement, il est à Carcarane dans le Var. Il veut acheter un revolver à une de ses connaissances. Il s'embrouille avec le vendeur et il le tue dans sa cave. Un voisin, alerté par le bruit, arrive, il le tue à son tour. Et puis la petite fille de la maison, la fille de la première victime, arrive à son tour encore. Elle a 11 ans et elle est également abattue. Triple meurtre, le deuxième en moins d'un mois. La petite fille avait eu le temps de passer un coup de fil à sa mère juste avant de mourir et elle l'avait dénoncé. Il est arrêté très vite, il avoue en garde à vue et puis il se rétracte. Pareil pour l'affaire du supermarché de Béziers, c'était la même arme. Il va d'abord avouer puis ensuite au procès et depuis ce procès, il va clamer son innocence. La cour d'appel du Var l'a condamné à perpétuité pour ses 6 meurtres. Peine qu'il purge donc toujours actuellement à Borgo, en Corse. Il est détenu depuis 1980.
Oui, personne n'a jamais cru en son innocence, sauf une seule personne, sa mère.
Oui, on l'a surnommée Mama Rocco. C'était une fille de pêcheur, femme de pêcheur, mère de pêcheur. Elle a eu 11 enfants. 2 sont morts dans des circonstances bizarres et accidentelles. 2 ont été assassinés par balle dans des règlements de compte. 2 autres encore ont été condamnés à perpétuité. Tommy, d'une part, et puis un autre frère qui s'appelait Antoine et qui a été condamné pour avoir tué 2 touristes pendant une sortie en pêche. Mama Rocco croyait donc en l'innocence de ses 2 fils condamnés à perpète contre toute évidence. Elle s'est rendue à Lourdes pour prier pour ses 2 fils et elle y est morte en plein pèlerinage d'un arrêt cardiaque. C'est ce qu'on appelle à Propriano la malédiction de la famille Rocco ou bien la malédiction de la tortue, parce que paraît-il, le père avait un jour tué une immense tortue qui s'était échoué sur la plage pour en faire un berceau pour ses enfants.
Comment explique-t-on la durée exceptionnelle de cette détention?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, les
crimes.
Oui, 7 crimes. Bon, encore, ensuite, je vous en ai passé 3 pour lesquels il n'a pas été condamné. Les libérations conditionnelles sont souvent conditionnées à l'expression de regrets sincères. Or, il ne peut pas regretter puisqu'il n'a jamais avoué et qu'il clame son innocence. Ensuite, il est toujours considéré comme dangereux malgré ses 86 ans. Pourquoi ? Parce que son propre fils a confié au journal Le Monde que son père rêvait toujours de se venger contre ceux qui l'ont dénoncé au début des années 80. Son propre fils dit qu'il n'est pas favorable à sa libération. Et puis, il y a surtout la vraie raison, la troisième et vraie raison. Il n'a jamais obtenu de remise en liberté parce qu'un homme y veille. Il s'appelle Guy Morel, c'est le mari de Sylvette Morel, une des 3 caissières abattues de froidement à Béziers en 1979.
Oui, Guy Morel ne veut pas voir sortir Tommy Rocco.
Non. À la morgue, devant le corps de sa femme, il avait juré publiquement que quoi qu'il arrive, Tommy Rocco ne serait jamais libéré. Et depuis, chaque fois qu'il fait une demande de libération conditionnelle, Monsieur Morel se déplace, il demande, il exige de témoigner et il fait tout pour convaincre les juges qu'il ne faut pas le laisser sortir. Il n'a pas dit formellement qu'il le tuerait s'il était libéré, mais il l'a dit la même chose un peu autrement puisqu'il répète que lui vivant, Tommy Rocco ne passera pas plus d'un jour en liberté. Ça veut dire qu'il s'occuperait de faire ce qu'il faut faire si jamais il sortait. Il n'a jamais refait sa vie depuis la mort de sa femme il y a 40 ans. Il n'a pas lâché l'affaire et c'est pour ça que la cour d'appel de Bastia, encore une fois, vient de rejeter cette demande de remise en liberté ou de suspension de peine.
57 ans et 7 mois de prison, C'est du jamais vu.
Non, la dernière étude sur le sujet indiquait qu'en moyenne, un détenu condamné à perpétuité est libéré au bout de 20 ans. Les précédents records, c'était 48 ans, pareil, en deux perpétuités pour un réunionnais qui a été libéré il y a deux ans. L'actuel deuxième plus ancien détenu en France, il est condamné seulement depuis 39 ans pour 5 meurtres et 5 viols. Après, le troisième, c'est Georges Ibrahim Abdallah, qui est en prison depuis 34 ans. Donc, vous voyez, le troisième, c'est 34 ans. Le premier, c'est 57 ans. Il y a une différence considérable. C'est le seul, Tommy Recco, à avoir dépassé les 50 ans dans l'histoire de la pénitentiaire et le seul qui va maintenant bientôt approcher les 60 ans derrière les barreaux.
Merci Nicolas Poincaré. Il est 7h58. Qu'allons-nous faire, Anaïs ?
Nous sommes à la reprise de l'épidémie de Covid-19. C'est ce que dit le conseil scientifique. Eh bien justement, nous serons avec Lila Boidemar, réanimatrice à l'hôpital Bichat et membre de ce conseil scientifique à 8h10.
RMC.